Bon, alors, pour situer le thème de la prière, j'aimerais remonter à la discussion qu'on a eue il y a quelques semaines, pas la semaine passée, sur la preuve de l'existence de Dieu. Parce que là, on avait discuté la preuve qu'il y a une origine à l'existence. Donc, on peut dire que c'est une idée minimaliste de Dieu, parce qu'on n'attribue pas pour le moment, aucune personnalité à Dieu, etc. On dit simplement que Dieu existe, au moins, on ne dit pas que ça explique tout, mais Dieu existe au moins comme premier principe, c'est-à-dire comme origine de toute l'existence, ou comme le créateur, si l'on veut bien. Alors, c'est tout dont j'aurais besoin pour situer le thème de la prière. Parce que, comme on a déjà dit quand on a discuté la question de l'existence de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une cause universelle? Ça veut dire que tout ce qui existe est le dernier élément d'une chaîne de causalité qui remonte jusqu'à Dieu. N'est-ce pas? Ça veut dire que au commencement de tout était ce principe, ce Dieu, ce créateur, cette origine d'existence, et que lui, il a engendré des choses qui ont engendré des choses qui ont engendré des choses, directement ou indirectement, n'est-ce pas? Tout ce qui existe actuellement, et comme j'ai dit, on peut imaginer Jacques ou moi ou n'importe qui comme étant le représentant d'une chaîne de causalité, ok, ses parents, etc., 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 qui remonte jusqu'à Dieu, n'est-ce pas? Une façon plus simple de dire ça, c'est que tout ce qui existe dépend de Dieu. C'est-à-dire que toute autre existence que Dieu est contingente sur l'existence de Dieu, parce que tout repose sur cette origine d'existence. Et d'ailleurs, il y a un texte d'Abdu'l-Bahá où il dit cela. On pourrait peut-être citer ça tout à l'heure, mais je n'ai pas préparé, malheureusement. Mais il dit que, exactement cela, que Dieu est l'unique existence qui est autonome, qui est l'unique être ou existant qui ne doit pas son existence à autre chose que lui-même. Que toute autre chose qui existe doit son existence à Dieu. Donc, tout dépend de Dieu, directement ou indirectement, avec un degré de direction ou indirection, si vous voulez. Mais tout dépend de Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, le discours habituel qu'on retrouve dans les religions, où on parle de si on veut être dépendant de Dieu ou non. Par exemple, les gens qui disent la religion c'est une béquille, c'est pour les névrosés qui ne peuvent pas faire face à la réalité, donc ils ont besoin de dépendre de Dieu, donc la religion c'est une béquille pour les faibles. La religion c'est rien que pour les faibles et les hommes forts, enfin, qui sont réalistes, qui peut faire face à la vie, n'ont pas besoin de Dieu, n'ont pas besoin de Dieu. Alors, donc, déjà, ce raisonnement est faux, parce qu'en fait, tout dépend de Dieu. C'est-à-dire, la dépendance de Dieu ne dépend pas de la reconnaissance qu'on a de ce fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que notre vie physique dépend, par exemple, de l'air, de l'eau, de nourriture. Le petit bébé ignore cela, n'est-ce pas? Il ne sait pas sur quoi il est dépendant parce qu'il a d'autres qui pourvoient à ses besoins. Mais le fait qu'il ignore son dépendance sur les autres ne veut pas dire, ne change pas le fait de sa dépendance. Okay? Donc, nous dépendons d'un tas de choses sans en être conscient. Et donc, le fait que Dieu est l'origine d'existence, de ce fait-là, il découle logiquement, inexorablement, que tout dépend de Dieu. Donc la dépendance de Dieu n'est pas un choix, ce n'est pas une question, c'est un fait pour tout le monde. Mais évidemment, des gens peuvent reconnaître ou non ce fait. Ils peuvent être conscients ou non de ce fait. Est-ce que ce point est clair? Alors, nous voyons aussi que l'univers est arrangé comme une sorte d'hiérarchie. Et dans le monde physique, cette hiérarchie est une hiérarchie de complexité croissante. C'est-à-dire, il y a les substances inorganiques, comme les minéraux, il y a les substances organiques, comme les plantes, et il y a ensuite les animaux, ensuite les êtres humains. Alors moi, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais il y a une façon parfaitement objective de définir cette hiérarchie. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une sorte de construction philosophique, parce que les plantes sont plus structurées, plus complexes que les minéraux, et les animaux sont plus complexes que les plantes, et les êtres humains sont plus complexes que les animaux. Une façon d'objectiver ça, il y a à peu près une dizaine de façons d'objectiver ça, je veux juste parler d'un, c'est les transformations énergétiques. C'est-à-dire un rocher, par exemple, est capable seulement, essentiellement, d'absorber de l'énergie ou d'émettre de l'énergie. C'est les seules transformations énergétiques qu'un minéral peut faire, c'est à peu près ça. La plante peut faire ça, donc la plante cumule ce que le minéral peut faire, mais la plante peut aussi, par exemple, une plante feuillue, peut utiliser la lumière solaire, comme vous savez, pour complexifier sa propre structure, c'est-à-dire la photosynthèse, n'est-ce pas? Donc, un minéral ne peut pas faire ça. Vous pouvez mettre toute la lumière sur le minéral que vous voulez, ça ne va pas complexifier sa structure, ok? Ça va simplement absorber cette énergie et l'émettre. Mais la plante, donc, peut faire d'autres transformations énergétiques que le minéral ne peut pas faire. Encore une fois, l'animal peut faire toutes les transformations énergétiques que la plante peut faire. C'est-à-dire, les animaux ne font pas nécessairement la photosynthèse, mais si on prend ça de façon générique, c'est-à-dire les plantes peuvent prendre des substances inorganiques et les incorporer dans leur structure. Pour complexifier leur structure, les animaux peuvent faire la même chose, n'est-ce pas? Ils font d'une autre manière, mais tout ce que les plantes peuvent faire, les animaux peuvent faire, c'est de prendre des substances inorganiques, les ingester et les utiliser, les protéines, pour complexifier leur structure. Mais les animaux peuvent faire encore plus parce qu'ils ont la sensibilité que les plantes n'ont pas, ils ont aussi l'ambulation, enfin la locomotion, que les plantes n'ont pas. Et le cerveau est plus structuré. Alors, je vais juste jouer un peu le prof pour 2 minutes, ok? 2 minutes. Alors, dites-moi une transformation énergétique que l'être humain peut faire, que l'animal ne peut pas faire. Je joue un peu au prof, je m'excuse. Mais on ne sait pas. Je veux dire, on ne sait pas. C'est une énergie, oui, mais il est... Les animaux ont une vie affective. Alors, est-ce qu'ils ressentent l'amour ou non? Ce n'est pas sûr qu'ils ne ressentent pas l'amour.
La prière. La pensée.
Ben ça, c'est très proche. Mais en fait, c'est transformation d'information. C'est-à-dire, l'être humain est le seul être que nous connaissons, à notre connaissance, qui est capable de donner un sens qui n'est pas intrinsèque au symbole, n'est-ce pas? C'est-à-dire le langage. Donc, l'animal, je peux lui donner de l'information, mais il ne peut pas le transformer, le transmettre comme l'être humain peut le faire. Donc, encore une fois, l'être humain cumule toutes les transformations énergétiques que l'animal peut faire, mais il y a encore au moins une transformation de plus, c'est-à-dire l'information. Et l'homme a sa conscience qui lui est propre, c'est-à-dire, encore une fois, on peut disputer est-ce que les animaux ont une conscience, oui ou non. Mais ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que la conscience dont jouit l'être humain est d'un ordre absolument supérieur à la conscience dont peuvent jouir les animaux, n'est-ce pas? Et ça se démontre par justement le langage et tout ça. Donc la vie subjective de l'homme est infiniment plus riche que la vie subjective des animaux à cause de ça. Donc, le propre de l'homme est sa conscience. C'est-à-dire, ce que je suis, ce que Jacques est l'ensemble de ses états internes. N'est-ce pas? C'est-à-dire, le fait que vous avez une conscience, ça veut dire quoi? Il y a un nombre de phénomènes dans l'univers que nous appelons vos états internes auxquels vous avez accès direct et auxquels personne d'autre n'a accès. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne peux pas ressentir vos émotions, penser vos pensées. Je peux penser des pensées semblables, des émotions semblables, mais pas vos émotions, pas vos pensées, n'est-ce pas? Donc, la subjectivité ou la personne de chaque être humain, c'est l'ensemble de ses états internes, n'est-ce pas? Et ce seul est l'être humain qui jouit de ses états internes.
C'est la conscience,
oui, c'est la conscience. C'est la conscience, mais je donne encore une fois une définition un peu plus objectif, si vous voulez, de conscience, pour que ça soit moins mystique, moins vague, si vous voulez. Mais bien sûr, c'est la conscience. Alors, voici, je viens au point. Tout ce qui existe dépend de Dieu. Mais seul l'homme peut être conscient de sa dépendance de Dieu. Parce que seul l'homme est conscient de son existence. Donc, notre relation avec Dieu, c'est d'être conscient. C'est-à-dire, ça nous définit en relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est définie par le fait que nous sommes les seuls êtres créés par Dieu, les seuls existants, qui peuvent être conscients de notre dépendance de Dieu. Donc, notre devoir, si nous voulons chercher le sens profond de notre relation avec Dieu, c'est que nous devons tout simplement devenir conscients, être reconnaissants de toutes les façons que nous dépendons de Dieu. Maintenant, ça peut sembler banal au départ, parce qu'on peut dire, ben, ok, j'accepte que tout ce que j'ai vient de Dieu. Je dépends entièrement de Dieu, je vois ça, je vois la logique de cela, je suis conscient de ce fait-là, voilà, ça finit là. Mais la chose n'est pas aussi simple parce que l'ego de l'être humain crée des illusions de possession et d'indépendance. C'est-à-dire, nous prenons à chaque instant un tas de choses pour acquis sans le savoir. Par exemple, nous prenons pour acquis, enfin c'est une chose aussi banale, que cette maison est suffisamment stable pour que vous puissiez rester quelques heures dedans sans être en danger. Si vous craignez ou si vous soupçonnez que cette maison n'était pas à ce point stable, vous n'aurez pas être à l'aise pour rester. Mais vous ne l'avez pas pensé en rentrant. Ce soir, vous n'avez pas eu la pensée consciente, je rentre dans cette maison parce que je sais que c'est stable. Votre sens de stabilité de cette maison provient d'un tas de données que vous vivez dans une société où les gens savent faire des maisons qui sont en généralement stables, qu'il n'y a pas de tremblement de terre ce soir, etc., etc. Donc il y a un tas de données qui font que vous prenez pour acquis que cette maison est stable. Mais en fait, il est logiquement possible que cette maison s'effondre d'une minute à l'autre, n'est-ce pas? Et etc., etc. Vous pouvez prendre le fait que vous m'écoutez maintenant, que vous pensez. Le fait que vous pensez, c'est qu'il y a à peu près 1000 transformations par seconde qui se passent au niveau des neurones du cerveau. Et ça fait toujours, par la synthèse des hormones, la norépinéphrine et la sérotonine, aux synapses et tout ça. Donc, s'il y a le moindre déséquilibre dans ces fonctions, qui se font 1000 fois par seconde, vous ne pourriez pas penser. Vous serez entièrement dépourvu de la capacité de penser. Okay? Donc, tout ça pour dire que, sans le savoir, nous prenons à chaque instant un tas de choses pour acquis. Certaines choses, nous pouvons invoquer avec un peu de réflexion, comme je viens de faire, mais il y a sans doute 1000 autres que nous ignorons complètement. Et même ces choses-là que nous pouvons maintenant invoquer, ça dépend aussi, c'est relatif à notre connaissance scientifique. C'est-à-dire, il y a 100 ans, on n'aurait pas pu invoquer ces choses parce qu'on ne les connaissait pas. N'est-ce pas? Donc, la science et le progrès scientifique est une partie de notre savoir, de notre dépendance sur Dieu. N'est-ce pas? Donc, du point de vue Baha'i, la science est consacrée ou sacrée parce que ça, c'est un outil indispensable à notre compréhension de notre dépendance de Dieu. N'est-ce pas? Mais maintenant, tous les prophètes religieux et toutes les philosophies religieuses ont affirmé aussi qu'il est possible d'avoir une communion avec Dieu. C'est-à-dire que, puisque nous avons une conscience, et nous sommes créés par Dieu, Dieu est plus grand que nous, donc Dieu a une conscience. Et, qu'est-ce qu'on fait entre consciences? Je ne peux pas ressentir vos émotions, vous pouvez ressentir les miennes, mais nous pouvons communier, nous pouvons partager nos émotions. Et la communion est la transaction la plus intime entre deux êtres, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous pouvons parler des paroles, nous pouvons faire toutes sortes de choses, s'embrasser physiquement, etc. Mais la communion, c'est la relation la plus intime qui nous rapproche le plus. Alors, la communion entre êtres humains, ça commence avec des paroles, mais ça converge par autre chose, par certaines sensibilités émotionnelles et spirituelles, etc. Alors, la communion avec Dieu, c'est la même chose. Et quand ça commence avec des paroles, c'est-à-dire Dieu est une conscience, et une conscience plus grande que nous, mais, dit Baha'u'llah, dit tous les prophètes, nous pouvons communier avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu le veut. C'est-à-dire, Dieu est plus grand que nous, il nous a créés. S'il ne voulait pas communier avec Dieu, il n'a rien que nous puissions faire pour communier avec Dieu s'il ne voulait pas. C'est une relation. C'est une relation avec deux partenaires dans la relation. Donc, on ne peut pas communier avec Dieu sans que Dieu soit d'accord de communier avec nous, n'est-ce pas? Et évidemment, Dieu a choisi de ne pas communier avec des minéraux ou des animaux ou des plantes, parce qu'il ne les a pas doués d'une conscience qui permet de communier avec ces gens-là. Donc, la prière, c'est la communion avec Dieu. La prière est donc, ça fait partie de notre relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu, c'est d'être de plus en plus conscient de notre dépendance de Dieu. Alors, par exemple, dans la foi Baha'i, il y a une prière obligatoire qu'on nous appelle, on nous sommes à dire chaque jour. Il y a trois formes de cette prière, une forme courte, moyenne et longue. Alors, j'aimerais demander à Mahalia de réciter la courte prière lentement, si tu veux, juste pour qu'on puisse vraiment digérer les paroles.
Je suis témoin, oh mon Dieu, que tu m'as créé pour te connaître et pour t'adorer. J'atteste en cet instant mon impuissance et ton pouvoir ma pauvreté et ta richesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, celui qui se court dans le pays, celui qui subsiste par lui-même.
Alors voilà. Voilà, ça c'est l'essentiel. Ça c'est l'essentiel. Il n'y a rien dans cette prière dont je n'ai pas déjà parlé. D'abord, il me dit, je témoigne que tu m'as créé pour te connaître et t'adorer. Donc, le but de Dieu en créant l'homme, c'est la communion entre Dieu et l'homme. Enfin, la connaissance et l'adoration de Dieu, c'est la communion avec Dieu. Donc d'abord, c'est l'affirmation que nous sommes créés pour communier avec Dieu. Ensuite, j'atteste en ce moment mon impuissance et ton pouvoir, ma pauvreté et ta richesse, donc, je témoigne quoi? Que je suis entièrement dépendant de toi, Dieu. Okay? Je suis impuissant, tu es puissant. Je suis pauvre, tu es riche. Donc, tout ce que je crois posséder vient de toi. Okay? Et finalement, la fin, le coda, c'est tu es celui qui subsiste en lui-même, c'est-à-dire tu es l'origine d'existence, tu es le seul être qui est sa propre cause, n'est-ce pas?
Et qui secourt dans le péril.
Et secourt dans le péril qui aussi est l'ultime source de tout secours, si on peut dire. Oui. Alors, si j'entreprends la discussion de cette manière-là, c'est pour démystifier un peu. À un certain niveau, on n'a pas besoin de démystifier. Il n'y a rien de mal avec le mysticisme. Cependant, je suis pour un mysticisme rationnel et non un mysticisme superstitieux. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une logique virile en dessous de tout ça. Et une fois qu'on se fait à cette logique, on n'a plus les sortes de réticences qu'on puisse avoir quand on entend parler de la prière par les gens qui se disent religieux et qui se croient peut-être moralement supérieurs à d'autres et qui disent, mais voilà, je prie à mon Dieu, je crois en Dieu, etc., etc. Ils parlent comme s'ils ont un monopole sur Dieu, n'est-ce pas? C'est un peu comme les intégristes font. Alors, ce que dit Baha'u'llah, c'est qu'il n'y a personne qui a le monopole sur Dieu. De par sa croyance quelconque, une personne n'a pas un monopole dans sa relation avec Dieu. Abdu'l-Baha dit textuellement, Dieu répond à toute prière sincère, peu importe qui prie. Donc, il donne comme le seul critère la sincérité dans la prière. Il ne dit pas seulement ceux qui croient dans la foi bahaïe ou croient dans Jésus ou croient dans Mohammed, etc. N'est-ce pas? Maintenant, on veut bien croire à Jésus et à Mohammed si nous sommes convaincus que c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de ça que nous allons, que Dieu veut communier avec nous. Il veut communier avec tout le monde. Et la prière, c'est la façon de le faire. Maintenant, juste une dernière coupe de réflexion. Quand on parle de la prière, quand on pense à la prière, le plus souvent, on pense de la prière de pétition, c'est-à-dire où on demande quelque chose de Dieu. Alors si, peut-être tu peux relire le passage que tu as lu, à tout à l'heure.
Dieu connaît les désirs de tous les cœurs, mais l'impulsion de la prière est naturelle. Elle jaillit de l'amour de l'homme pour son Dieu.
Donc, souvent on pose la question, mais pourquoi il faut demander des choses à Dieu si Dieu connaît déjà nos besoins? Alors, je ne peux pas réfuter cette logique. Mais pourquoi la prière se réduit à demander des choses de Dieu?
Il dit plus la soif est vive, plus la générosité du nuage ou bienfaisant, des choses là. Telle est la sagesse, tel est le mystère de la supplication et la sagesse d'exposer ces désirs.
C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est précisément la chose suivante. Ce qu'on désire, c'est la communion avec Dieu. C'est-à-dire, si vous tombez amoureux, vraiment amoureux d'une femme, ok, c'est une belle femme, etc., vous tombez vraiment amoureux de la femme.
Mais quand on est amoureux, c'est toujours...
Oui,
c'est toujours d'accord, mais je veux préciser.
C'est
la logique de la femme.
Oui. En tout cas... Si vous tombez amoureux d'une femme, ok, ou une femme tombe amoureux, si c'est possible, d'un homme.
Pourquoi ce serait pas possible?
Ah ben, parce que je commence à avoir des doutes, moi. Alors, si quelqu'un tombe amoureux de quelqu'un d'autre, ce que vous désirez le plus au monde, c'est d'avoir une relation intime de communion avec cette personne. C'est-à-dire, le but de votre relation, c'est pas c'est, qu'est-ce qu'elle peut me donner. Est-ce qu'elle a de l'argent? Est-ce qu'elle va me donner de l'argent? Est-ce qu'on va vivre dans une bonne maison, etc., etc. Quand vous êtes vraiment amoureux, vous, toutes ces pensées semblent même vaines, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous pensez seulement à vous rapprocher de votre bien-aimé, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose avec la prière. Si on aime Dieu, et c'est dans ce sens-là, bien sûr, nous avons soif, mais ce soif, c'est d'accroître notre relation avec Dieu. C'est pas que Dieu nous donne, parce que qu'est-ce que Dieu peut nous donner qui soit plus que lui-même? N'est-ce pas? C'est-à-dire, si je demande des choses de Dieu, fais-moi riche, fais-moi, je ne sais pas, intelligent ou beau, etc., etc., alors, en quelque sorte, je me sers de Dieu comme un moyen pour autre chose qui est moindre que Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je devais plutôt servir de mon argent, de mon intelligence, de tout ce que j'ai pour servir Dieu, pour que je me rapproche de Dieu, plutôt que de demander à Dieu de... Bon, maintenant, Dieu, bien entendu, comme il est dit dans la prière, dans la citation, il connaît d'avance nos besoins. Donc, Dieu va satisfaire à nos besoins. Et Dieu va nous aider. Il n'a rien de mal à prier des prières de pétition. Mais c'est très clair dans les écrits Baha'i et dans d'autres traditions spirituelles aussi qu'il y a une sorte d'hierarchie dans notre relation avec Dieu. C'est exactement comme quand on est petit enfant, on a une relation de dépendance sous nos parents. En grandissant, nous acquérons une certaine autonomie et la nature de notre relation change. C'est la même chose. Ce n'est pas Dieu qui change, mais au fur et à mesure que nous progressions spirituellement, notre relation avec Dieu change. Et au départ, enfin, beaucoup de gens, par exemple, je dirais même peut-être la grosse majorité des gens, la première fois dans leur vie qu'ils prient, c'est la première fois qu'ils sont dans un très grave danger ou ils sont face à un problème grave qui tout d'un coup les force à reconnaître qu'ils n'ont pas la réponse en eux devant cette chose-là, n'est-ce pas? Ça peut être la mort de quelqu'un proche, ça peut être comme dans la bataille, dans la guerre, ou dans, etc. Mais souvent c'est comme ça. Donc, habituellement, la prière commence avec des prières de pétition. Aide-moi Dieu, donne-moi ceci, je suis vraiment dans la pauvreté, aide-moi, etc. Donc, il n'y a rien de mal dans les prières de pétition. Mais, néanmoins, ça représente le début d'une relation. Et ça représente une relation à une étape assez immature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans sa relation avec Dieu, il vient un moment où on n'a plus l'envie de demander quoi que ce soit à Dieu, tout simplement parce qu'on sait d'avance que ce que Dieu décrète pour nous, c'est mieux que tout ce qu'on peut demander, n'est-ce pas? Je me souviens très bien, la dernière fois, c'était il y a 15 ans à peu près, que j'avais prié pour quelque chose, et la réponse était non. Et après, j'étais absolument... si Dieu m'avait octroyé cette prière par la suite, j'avais découvert que ça aurait été une catastrophe épouvantable. Donc, à ce moment-là, j'ai juré de ne jamais plus demander quoi que ce soit de Dieu, par crainte qu'il me le donne. c'est-à-dire, et je pense que, mais les prophètes parlent de ça aussi, qu'il a cette étape où on prie simplement pas, comme il l'a dit dans les citations, par l'amour de Dieu, et pas pour autre raison. Parce que la relation avec Dieu devient la chose la plus importante et la plus précieuse. Alors, c'est tout ce que je veux dire, oui. Et pour répondre à ça, il faut faire une distinction entre qualité et quantité d'informations.
C'est difficile, je trouve. C'est seulement cela. Moi, je trouve que c'est vraiment difficile de trouver les choses essentielles.
Et c'est pourquoi nous parlons parfois de relations authentiques. C'est-à-dire, c'est la qualité des relations, par exemple, entre êtres humains. Et cette qualité est parfois inversement proportionnelle à la quantité de paroles, n'est-ce pas? Regardez l'Internet, par exemple, et tout ça, où maintenant tout le monde a accès à des interactions superficielles avec tout un tas de monde, mais vous pouvez rester anonyme et tout ça. Alors la qualité des relations diminue en fonction de la quantité qui se multiplie, n'est-ce pas? Il y a des gens, et ça, même les psychologues ont étudié ça, il y a des gens dans la société qui n'ont aucune relation authentique avec aucun être humain. Ils sont absolument seuls. Ils lisent le journal chaque jour, ils vont au café, etc., etc. Ils mènent une vie matérielle, mais ils n'ont aucune relation authentique avec d'autres êtres humains. Ils vivent vraiment dans la solitude spirituelle et émotionnelle complète. Donc, c'est ça, il faut vraiment chatouiller cette notion de quantité versus qualité d'information. Une véritable lettre d'amour de ton copain, je pense, ça vaudrait beaucoup mieux que, que toute une tonne d'informations de l'Internet, n'est-ce pas?
Tu disais tout à l'heure que d'avoir une relation, de faire une demande, hein, de faire une demande à Dieu est préférable parce que c'est un début de communication, c'est un début de relation, que de ne pas avoir de relation du tout avec Dieu.
Oui.
Mais alors, mais est-ce que ça reste toujours à ce niveau-là ou si ça va progresser, si la relation va changer? Va changer ou si ça reste toujours sur une question de demande. Moi, j'appelle ça du
bargainage,
tu sais. Tu me donnes ça, si je fais ça, si tu me donnes ça et tout ça. Est-ce que ça évolue ou si ça reste?
Mais c'est-à-dire, à mon sens, personne ne peut juger la maturité d'une autre personne. Donc, il a beaucoup de liberté. C'est ta relation avec Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Et la relation qu'a chacun est différente. Mais si on lit soigneusement les paroles, enfin, de Baha'u'llah, il y a de Baha'u'llah là-dessus, et le Bab aussi, il est évident qu'il y a une évolution dans cette relation. Le Bab a dit, je ne sais pas si je peux le citer bien en français, il dit, il faut finalement chercher la volonté de Dieu sans crainte ni espoir. Sans crainte de l'enfer ou de la souffrance et sans espoir du ciel. Quand on est complètement détaché, on cherche la volonté de Dieu parce que c'est Dieu et on aime Dieu. Encore une fois, on peut faire l'analogie avec un amour humain, c'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir. Donc s'il veut quelque chose, si on découvre qu'il a une certaine volonté, n'est-ce pas? Si quelque chose lui fait plaisir, alors on veut faire ça, n'est-ce pas? Parce qu'on aime voir la sourire, on aime voir la, quand on accomplit la volonté de notre bien-aimé, n'est-ce pas? Alors on ne fait pas ça parce qu'elle va me faire un bon souper, ou parce que je vais avoir quelque chose en récompense, ou parce qu'elle va être fâchée si je ne le fais pas, n'est-ce pas? ça peut entrer en ligne de compte, mais on peut imaginer quand même une étape où je fais ça par pur amour, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Donc c'est évident, si on lit les écrits, qu'il a des étapes dans la prière, oui, et les étapes dans la relation.
Ouais, je ne sais pas si on prie, d'accord, on prie, mais l'être est invisible, Dieu est invisible. Donc, on peut ressentir, ça m'arrive rarement, mais ça arrive des fois où tu ressens comme une communion, beaucoup plus contact direct. Là.
Oui, bien sûr.
Mais comment peux-tu être sûr, ou comment peux-tu dire, parce que, par exemple, dans le temps des Grecs, on priait Zeus et Aphrodite et je ne sais pas qui et je sais pas quoi. On priait, il y en a qui prient la roche, il y en a qui prient. Donc, chacun de ces gens-là, sincèrement peut-être, prie quelque chose ou un objet. Comment tu sais que là, tu es avec l'essence, tu es avec les dieux, celui le créateur, et quand est-ce que tu sais que finalement, non, tu es dans tes propres fantaisies?
Au départ, on ne sait pas. C'est par l'expérience, c'est ce que Abdu'l-Bahá parle de la purification du cœur. Ça, c'est seulement... c'est pourquoi ça commence avec la manifestation, avec la révélation, avec les écrits, qui sont des choses palpables que nous pouvons lire, n'est-ce pas? Et là, nous pouvons être certains, ce que dit Bahá'u'lláh est la parole de Dieu. Ça vient de Dieu, ça, c'est pas une fantaisie, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le pôle d'objectivité. C'est pourquoi on a besoin de la révélation. C'est le pôle objectif de cette relation. Parce que les écrits sont là, rappelons que ce que Bahá'u'lláh a dit, la première preuve de la révélation, c'est la personne de la manifestation. La deuxième preuve, c'est ses écrits. Non, je m'excuse. La deuxième, c'est sa révélation. Et le troisième, c'est ses écrits. Okay. Et donc, les écrits, la révélation et ses écrits sont des choses palpables qui durent, n'est-ce pas? Enfin, nous avons les écrits, n'est-ce pas, qui sont publiés, qui durent des milliers d'années, n'est-ce pas, comme la Bible, le Coran. Et ça, c'est en quelque sorte un contrepoint objectif par lequel nous pouvons mesurer notre expérience. Par exemple, si par exemple je prie à Dieu et je sens fortement la pulsion d'aller tuer quelqu'un, mais je sais certainement que ça vient de moi et non de Dieu, parce qu'il est dit dans le Kitab Yaqdas qu'il ne faut pas tuer, que c'est contre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une façon déjà de mesurer, c'est un point de référence, les écrits, pour mesurer nos sentiments, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une purification du cœur où, au fur et à mesure qu'on grandit spirituellement, on arrive à distinguer graduellement nos propres fantaisies d'une véritable communion avec Dieu.
Par ça, les vaines imaginations, c'est-à-dire les idées qui viennent de nous, de notre moi, de notre ego, et plutôt que de l'inspiration qui peut nous arriver de Dieu. Une distinction entre ce qui vient de nous, les vaines imaginations, et ce qui vient de Dieu, c'est l'inspiration.
Mais Shoghi Effendi a dit que l'intuition seule ne peut jamais être une garantie. C'est-à-dire, tu ne peux jamais te fier absolument à ton intuition. Donc, comme je dis, tu peux être de plus en plus certain, alors ça c'est une pulsion divine et ça c'est simplement mon imagination. En tout cas, je peux dire d'une façon plus subjective que la façon comme moi j'ai vécu la chose, peut-être d'autres ont d'autres expériences, c'est que pour moi, l'ego est toujours là et cherche toujours à transformer chaque intention pure dans quelque chose qui sert l'intérêt propre de l'individu, n'est-ce pas? Alors, tu peux être orgueilleux, comme tu peux être humble, mais tu peux être fier d'être humble, et tu peux être fier du fait que tu es conscient que tu es humble et fier d'être humble, et tu peux être fier de ça, etc. Il n'y a pas de limite. L'ego peut toujours trouver une façon de Enfin, Abdel Baha donne l'exemple suivant, il dit « L'âme qui s'envole vers Dieu, c'est comme l'oiseau qui vole vers les hauteurs, et l'ego, c'est comme le chasseur avec son fusil qui attend plus que l'oiseau vole haut, plus que le chasseur cherche des moyens subtils de le cibler, de le tirer, de le faire descendre, n'est-ce pas ?» Il dit « Ça, c'est l'ego, et comme le chasseur et l'âme, c'est... » Donc, aussi haut que vole l'oiseau, le chasseur est toujours là. Il est toujours en attente de la possibilité de faire descendre l'oiseau.
L'histoire de Icarus.
C'est oui. Oui. Icarus.
Ah, c'est quoi l'histoire de Icarus?
Ben, raconte.
Je ne sais pas, je ne connais pas bien. Il voulait voler.
Mais c'est ça, il avait...
Qui, Icarus, c'était quoi, un dieu grec?
C'était un fils de qui, je ne sais pas, d'un dieu, je crois. Oui.
C'est ça, et puis il avait des ailes qui étaient fixées par de cire. Oui. Et comme ça, il pouvait voler, mais il a volé trop près du soleil, ce qui a fait fendre le cire et il est tombé, enfin. Il était le plus haut de tout le monde, il était près du soleil, il est tombé tout en bas, c'est ça.
Je pense que toute question de la prière doit mentionner aussi que d'après l'enseignement bahaï, c'est la parole de Dieu qui est rapportée en quelque sorte dans chaque âge, qui la parole de Dieu qui revient dans chaque âge, à peu près tous les 1000 ans. Et cette parole a une puissance extraordinaire. Et elle est véhiculée par l'avènement d'un messager de Dieu, le fondateur d'une grande religion, Bouddha, Jésus, Muhammad, Baha'u'llah, dans la foi bahaï, enfin. À peu près tous les 1000 ans, Moïse dans le judaïsme, et que cette parole divine est transmise à l'homme par le messager qui apporte le message, c'est la parole, le message de Dieu. Et c'est ce message, cet enseignement, est capable de transformer l'être humain et transformer la société dans laquelle l'être humain vit. Alors, cette parole apportée par le messager, il y a une puissance dans cette parole. Et si l'individu se tourne vers cette parole et s'il le répète, s'il l'utilise, un effet sur son âme. C'est ça une promesse d'ailleurs que les écrits bahaïens font. Que si on utilise la parole de Dieu, si on se tourne vers Dieu
sincèrement,
avec
ça, c'est toujours une prérequis, oui.
De Dieu, qu'il y aurait inévitablement un effet sur l'âme.
J'ai une bonne histoire, je ne sais pas.
Oui.
Bien sûr. Je me suis perdu en forêt, j'ai cherché un lieu très très beau. Et vraiment, c'était compliqué d'arriver. Et je priais, oh Dieu, c'est où? Et je suis vraiment, je ne me suis pas trompé, je suis arrivé juste.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est vraiment intéressant.
Bien sûr, bien sûr.
C'est
une surprise.
C'est une surprise.
Non, c'est ça. Et puis, même les enfants, par exemple, mon fils est danseur de ballet. Et quand il était jeune, il prenait des cours. Et il avait des examens à la fin de l'année. Alors je lui ai dit, n'oublie pas de prier pour que Dieu t'aide. Il dit, oui, je vais le faire. Puis après, je lui ai demandé, alors comment c'est bien allé? Il dit, oui, c'est bien allé. Et j'ai dit, est-ce que tu as dit des prières comme je t'ai suggéré? Il a dit, ah oui. J'ai dit, est-ce que tu as ressenti l'aide de Dieu? Il dit, ah oui. Il m'a aidé, il dit, surtout avec mes sauts. Après lui, c'était aussi concret que ça. Il dit, quand je faisais des sauts, là, je ressentais vraiment l'aide.
Parce qu'il est
dans
ça.
Des sauts.
Okay.
Tu sais,
Le spring.
Il prenait des cours.
Des springer.
Surtout avec ses sauts.
Est-ce que je peux raconter une petite anecdote? Ça s'est passé aujourd'hui. C'est avec ma fille, j'ai une fille de 13 ans, et puis bon, elle est à l'école, et puis elles font les examens et tout, puis je veux dire, il y a beaucoup de pression. Et puis bon, et elle était très très anxieuse, elle était stressée et tout ça, et puis je lui ai dit, mais tu sais, tu peux demander à Baha'u'llah qui t'aide. Alors elle dit, mais je lui demande, mais il m'écoute pas, je suis pas importante pour lui. Alors je lui ai dit, Anissa, tu sais, j'ai dit, moi je suis certaine que Dieu il t'aime. Tu peux simplement prier, juste dire quelque chose, tu sais, sa grandeur, sa bonté, sans demander quelque chose. Alors j'étais dans la voiture ce matin, elle avait un examen ce matin, tout ça, tu vois, je veux dire, cette anxiété des jeunes, tu sais, ce stress et tout ça. Et alors, et puis hier soir aussi, tu vois, je veux dire, j'étais assise à la table, elle voulait avoir un peu de support, et j'ai prié avec elle. Et on a récité qui est autre que Dieu, dissipe les difficultés. Et après, j'ai fait l'autre prière courte, je suis témoin au mon Dieu, je l'ai fait celle-là, puis une autre petite, c'est Dieu suffit à tout. Et j'ai remarqué que ma fille, aujourd'hui, ce matin, on a prié dans la voiture, qu'elle était plus calme. Et je lui ai dit, tu vas, fais tes examens, tu fais le mieux. Elle travaille quand même. Elle étudie tard le soir et tout ça pour préparer ses examens. Mais j'ai vu que, je ne sais pas si elle va avoir des résultats extraordinaires, et puis j'ai dit, on ne sait pas le but, mais c'est que j'ai vu qu'Anissa, elle est beaucoup plus calme. J'ai trouvé qu'elle se fait plus confiance et je lui ai dit, tu fais le mieux que tu peux. OK? Tu travailles fort. Et alors, à ce moment-là, je veux dire, c'est l'excellence, tu vois. Mais elle veut, bien entendu, elle voudrait avoir des 90, des 95, tu vois, et tout ça. Alors, je lui ai dit, mais j'ai vu qu'il y avait plus de calme chez Anissa. Et ce soir, elle est à la maison parce qu'elle travaille son examen d'anglais et tout. Et puis, et je l'ai vu ce matin, j'ai vu vraiment la différence d'un enfant qui est stressé puis d'un enfant qui est plus calme. Puis quand je suis allée chercher après ses examens et tout ça, j'ai dit, comment ça a été? Elle dit, oh, elle a dit, il y avait des questions qui étaient difficiles et tout ça, mais elle a dit, j'ai quand même répondu et tout ça. J'ai dit, tu t'es fait confiance? Elle a dit, oui. Elle a dit, on verra ce que ça donne et tout ça. Mais je la voyais plus calme, vraiment plus calme. J'ai vu, là, tu sais, quelqu'un qui est énervé, tout ça, puis le jour d'avant, elle pleurait, puis elle était inquiète, puis là, j'ai... Juste par une toute petite phrase, tu vois, puis leur apprendre. Je trouve qu'il y a toujours, c'est qu'avec, je pense qu'on tu dis qu'il faut apprendre cette évolution, puis aussi faire cette conscience que tu pries Dieu parce qu'il est Dieu seulement, tu vois.
Oui, bien sûr.
Que son énergie, elle est là, et que son énergie va te parvenir d'une manière ou d'une autre. Chez Anissa, c'était le calme.
Oui,
alors,
c'est ça.
Et je la trouvais beaucoup plus détendue, plus heureuse, et puis ce soir, bien entendu, elle faisait des faces, elle me taquinait, ça, je dis, ah, alors ça, c'est un bon signe, toi. Oui, parce que c'est beaucoup de pression, hein, tu sais, sur ces examens-là,
bien sûr.
Et elle est dans une école quand même qui sont exigeants et tout ça comptait.
Ben, je pourrais vous raconter une histoire qui est une des histoires les plus invraisemblables que je connais. C'est l'histoire de Yolen. Nous avons un ami Bahaï que la plupart d'entre vous connaissent, Yolen Alexis. Elle est à Ottawa maintenant. Elle vient d'Haïti, donc elle est noire. Et puis, elle nous a fait découvrir, Judith et moi, jusqu'à quel point cette société est encore raciste, n'est-ce pas, en fait. Alors, je vous épargne toutes les histoires, mais en fait, elle était une cible ambulante. Tout le monde essayait de profiter d'elle. Son médecin essayait de la séduire. Son travailleur social voulait faire du chantage pour qu'elle entre dans une relation lesbienne avec elle, en disant qu'elle allait lui couper les vivres si elle ne faisait pas, etc. Mais elle est très forte, en fait. Elle résistait à tout ça. Mais enfin, l'histoire que je vais raconter, je vais essayer de faire le plus court possible, mais c'est vraiment intéressant. Hein. Que Judith et moi essayons d'aider Yolaine un peu, parce qu'elle avait 3 enfants et puis son mari l'a quittée et tout ça. Hein. Ben, ils se sont divorcés, oui. Oui, enfin. Elle a quitté son mari, oui. Elle est une femme battue, oui. Mais je ne voulais pas, en fait, entrer dans ces détails, mais c'est ça. Bon, elle était une femme battue, etc. Et, en tout cas, alors, comme je dis, elle se heurte continuellement contre toutes sortes de préjugés dans la société. Et, donc, elle n'avait pas terminé l'école secondaire. Donc, elle a recommencé ses études pour terminer l'école secondaire, pour entrer au cégep, pour avoir une profession, n'est-ce pas? Ce que elle a fini par faire. Donc, je dis que la fin de toute l'histoire est positive. Elle a fait le cégep, elle a une profession, et puis elle gagne bien sa vie avec cette profession. Elle est infirmière auprès des gens âgés. Géronto quelque chose comme ça. Oui, mais c'est... Elle est infirmière, gérontologue ou quelque chose, enfin bon, je ne sais pas. Mais en fait, alors, donc habituellement quand elle avait des problèmes, on essayait de l'aider, enfin, parce que parfois c'était quand même utile qu'elle ait, elle montre qu'elle avait des relations avec des gens bien placé dans la société, si tu veux. Enfin, ça enlevait certaines difficultés. Mais nous étions aux États-Unis en visite chez ma mère. Il est arrivé la chose suivante. Et vraiment, elle m'a raconté ça, elle nous a raconté en détail. Elle avait une semaine pour renouveler son inscription. C'était au mois d'août. Pour renouveler son inscription dans son cours de secondaire. Elle va chez, il y a une personne, un commis de bureau quelque part, qui doit approuver la chose chaque année. Alors cette personne a dit carrément à Yolaine, vous avez déjà assez d'éducation pour une noire. Mais l'idée, c'est que c'est bien répandu dans la société, hein, que les immigrants, enfin, etc., ils viennent prendre notre travail, etc., n'est-ce pas, en fait. Donc, vous avez assez d'éducation pour un noir. Si vous étiez québécoise, la citoyenneté canadienne, elle est québécoise, en fait, bon, du point de vue de ses droits, mais si vous étiez québécoise, enfin, ça vaudrait la peine, mais pour un noir, que vous avez assez, je vous donne pas.
Elle a dit ça,
oui, oui. Oh, mais là, j'ai assisté à des choses pareilles, mais... Oh, non, mais ça, c'est autre chose. Je ne veux même pas parler du racisme dans la société.
Okay. Okay.
Je... Oui.
Okay.
Alors, donc, elle refusait de lui donner la permission. Elle dit, à moins que vous ayez, enfin... Non, elle a refusé tout carrément. Et le temps pressé, elle avait à ce moment-là seulement quelques jours encore. Alors, comme je dis, à ce point-là, elle aurait normalement fait appel à l'aide à quelqu'un, mais il n'y avait quelqu'un vers qui elle pouvait se tourner à ce moment-là. Alors, bref, elle est rentrée chez elle, elle a récité le tablette d'Ama 19 fois, et elle s'est couchée. Oui.
C'est une longue prière.
Oui. Et elle s'est couchée. Elle a rêvé d'un bâtiment. Et elle savait qu'elle devait aller à ce bâtiment. Alors, elle se levait le matin, elle a mis une robe chic et tout ça, elle s'est bien habillée. Elle a téléphoné à un taxi, le taxi est venu, elle s'est mise dans le taxi a dit où? Elle a dit, je ne sais pas où, mais je saurai quand on y arrive. Alors vous pouvez imaginer ce que dit le taxi, mais vous êtes un fou, n'est-ce pas, etc. Il l'injure de toutes les façons. Elle dit, mais écoutez, je vous paye. Alors je vous dis de vous promener dans la ville et je vais vous dire quand arrêter. Alors, elle a vu le bâtiment de, où se loge le ministère de, d'éducation. Elle dit, ah, c'est là, le bâtiment. Mais ce n'était pas écrit ministère d'éducation. Elle avait vu sur le bâtiment dans son rêve. Et elle dit, voilà, je vous donne $5 de plus pour vos pains, n'est-ce pas? Alors, elle est montée. Et elle est entrée dans le bureau du député ministère d'éducation de Québec. Et elle a dit au secrétaire, à la secrétaire, j'aimerais voir monsieur le ministre, enfin le sous-ministre. Et elle a dit, mais est-ce que vous avez un rendez-vous? Elle dit, non, je n'ai pas de rendez-vous. Et vous savez très bien que si je demande un rendez-vous, vous n'allez pas m'en donner. Alors, pas la peine de prendre un rendez-vous. Moi, je veux le voir. Je ne veux pas prendre un rendez-vous. Je veux le voir. Alors, bref, il commençait à avoir un va-et-vient entre elle et le secrétaire. Et elle dit, mais vous ne pouvez pas, vous êtes folle, etc. Toutes les injures, exactement comme le chauffeur de taxi. Elle a dit, non, je ne pars pas tant que je n'ai pas vu le sous-ministre. Alors, à ce moment-là, le bureau intérieur, la porte ouvre... Et le sous-ministre entend tout ce va-et-vient. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas, tous ces gens qui crient, etc. Là-bas, il y a une folle de dame qui veut venir, qui veut vous voir. Mais qu'elle vient me voir. Alors, elle est entrée dans le bureau. Elle avait tout préparé ça. Elle avait des brochures Baha'i, des livres Baha'i. Elle lui a enseigné la foi d'abord. Okay. Elle a dit, qu'est-ce que je suis Baha'i, voilà pourquoi je suis là. Et puis, elle a dit que les Baha'i, ont l'obligation de chercher le plus d'éducation possible, etc. Et elle lui a tout expliqué exactement pourquoi elle voulait continuer des études. Alors le sous-ministre a lui-même, à la main, écrit une permission ministérielle pour qu'elle poursuive son cours. Elle est sortie avec ça et elle est allée avec... elle est très intelligente, elle a pris une photocopie, ok. D'abord, elle est allée chez la dame.
Qui lui avait refusé,
oui. Et elle avait donné la chose, et la dame a vu ça, elle dit, tu m'échappes cette fois, mais je vais l'avoir, je vais t'avoir. Et elle a dit, tu ne peux rien faire, parce que je suis sous la protection de Baha'u'llah.
Quelle audace, Dieu! Quelle audace!
Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Elle a dit ça, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que je suis sous la protection de Baha'u'llah.
Quelle audacieuse!
Et puis, la fin de l'histoire, c'est que non seulement elle a complété son cours, et elle a fait aussi le cours professionnel de technique infirmière pour les âgés, ou je ne sais pas quoi.
Technicienne en gérontologie.
C'est ça. Alors, elle a finalement... quand elle a eu son emploi et elle n'avait plus besoin d'aide sociale et tout ça, quelqu'un est venu le voir et dire, vous êtes un cas unique, vous êtes la première personne qui a été aussi longtemps sur l'aide sociale et qui a réussi à s'en sortir. Et on veut écrire un article sur toi pour notre bulletin. Pour montrer aux gens que c'est possible, parce qu'il dit, la plupart des gens, une fois qu'ils tombent sous l'aide sociale, ben, ils restent là-dessous, etc., pour le reste de leur vie, etc., et soit ils sont incapables, soit ils ne veulent pas trouver du travail. Mais toi, tu as été quand même 10 ans là-dessous, parce qu'elle avait 3 enfants, hein, il n'avait même pas l'éducation secondaire, elle a commencé de très loin, n'est-ce pas? Alors, ils ont sûrement dit, enfin, comme la bonne dame, oh, ben, jamais elle va arriver, n'est-ce pas, c'est du temps perdu, etc. Mais en fait, finalement, elle était un cas archétype, n'est-ce pas, un cas... et puis, elle leur a dit, elle les a envoyés promener, elle dit, vous n'allez jamais voulu m'aider quand j'étais dans le besoin, et moi, je ne vais pas vous aider maintenant. Mais, simplement qu'elle n'allait pas, c'est-à-dire pour elle, c'est la justice, n'est-ce pas? C'est la justice, elle ne va pas... devenir le pion de ces gens-là, n'est-ce pas? Alors, mais ça c'est une histoire, mais c'est vraiment c'est comme ça. Ça c'est une personne qui vraiment dépend de Dieu, n'est-ce pas? Qui sait qu'elle dépend de Dieu.
Wow.
Je ne savais pas cette histoire, mais c'est vraiment belle. Elle a vu le bâtiment, elle est allée, elle a, le chauffeur, bien entendu, dans des choses comme ça, je veux dire, ils ne comprennent pas, c'est pas, tu sais, ils pensent que ce n'est pas rationnel, que ce n'est pas, tu vois, je veux dire, mais elle, elle savait exactement où aller, et elle a eu la signature du ministre. C'est vraiment quelque chose. L'autre dame a dû être en colère.
Ah oui?
Mais Yolaine ne criait pas. C'était l'autre dame.
Non, non, bien sûr.
Qui ne criait pas, mais qui
avait c'est ça, oui.
Madame, c'est pas possible que vous ayez.
C'est ça, oui, c'est ça.
Et je ne pars pas tant que je n'ai pas vu la porte. Elle est toute petite, elle est toute mince. Puis elle est très jolie et tout. Mais elle est toute mince et tout. Mais la force qu'elle
peut. Et elle parle avec, elle parle avec un fort accent haïtien, n'est-ce pas? Oui. Qui, évidemment.
Oui, elle est très foncée, tu vois, je veux dire. Oui. C'est impossible de pas. Eh, mais elle est audacieuse, hein, c'est bien.
Mais tout ça pour dire, c'est qu'elle dépend vraiment
de Dieu. Elle sait qu'elle dépend de Dieu.
Elle dépend de la volonté de Dieu. Elle utilise la prière pour faire face à la vie.
J'ai une histoire un peu comme cela.
Oui.
Le père de ma copine, elle était une fois aussi, il avait beaucoup de problèmes parce qu'il a une confection de vêtements pour l'hiver. Et une fois, c'était avant le concours. Et sa femme aussi, la mère de ma copine, elle a quitté son mari. Elle était vraiment au but de ses forces. Elle a prié. Il a vraiment prié qu'est-ce qu'elle doit faire. Il m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, arc-en-ciel dessus son confection factory.
Oui.
Et après, il a investi plus d'argent.
Mm-hmm.
Et maintenant, ça marche bien. Et ça,
c'est
un signe. Oui, sa femme, elle est revenue.
Oui.
Oui.
Ah bon?
Alors,
est-ce qu'il est content de ça?
Oui, oui.
Tant mieux, oui.